RCF.
Le barbare, cet être non civilisé, aux mœurs sauvages, assoiffé de sang et de violence, qui détruit à peu près tout sur son passage. Au-delà de cette caricature largement exploitée par le cinéma, les livres ou les jeux vidéo, qui sont les barbares? D'où viennent-ils? Et quelle est leur place dans l'histoire de l'Empire gréco-romain? Bruno Dumézil, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous éclairer sur les barbares à l'occasion de la publication aux presses universitaires de France d'un très gros livre que vous avez dirigé, consacré aux barbares, avec une partie importante qui est en fait constituée comme un dictionnaire. Vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Paris-Ouest-Nanterre. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce qui explique selon vous que depuis quelques années, on s'intéresse à nouveau à ces personnages dont on a du mal à quelquefois à distinguer le faux du vrai, la légende de l'historicité.
Alors les barbares passionnent depuis une quarantaine d'années, disons. Depuis peut-être que la civilisation européenne s'inquiète, se demande si elle n'est pas arrivée en bout de cycle, si nous ne vivons pas une période de transition, certains diront de décadence. Et donc on se pose la question de la fin des grands empires, ceux de l'Antiquité, de la Grèce bien sûr, de Rome, mais aussi plus largement de toutes ces phases de tuilage, de recouvrement entre deux moments, deux temps historiques, ce qu'on appelle les périodes intermédiaires ou qu'on appellera les périodes barbares.
Parce que les barbares interviennent à des périodes, justement, d'affaiblissement des empires ou de l'autorité, du pouvoir?
Peut-être pas. Historiquement, on peut beaucoup discuter de savoir qui ont été les barbares, quand est-ce qu'ils ont été actifs, quand est-ce qu'ils ont eu un rôle historique important. Mais dans la pensée occidentale, depuis le 19e siècle et surtout le 20e siècle, la barbarie est associée à l'idée d'une fin. Fin surtout de l'Empire romain, sur lequel on a beaucoup spéculé, et fin peut-être aussi de notre civilisation, sur laquelle on réfléchit encore aujourd'hui.
Vous avez prononcé le mot de barbarie, qui a une connotation aujourd'hui très particulière. La barbarie, c'est le meurtre de masse, c'est la violence, ce sont les exactions. Le XXe siècle n'en a pas manqué. Est-ce que ça peut avoir un lien aussi avec ce regain d'intérêt ?
Curieusement, le terme de barbarie est presque celui qui est le dernier à être apparu. Autant on a beaucoup discuté des barbares depuis 2000 ans, voire plus dans la société gréco-romaine puis occidentale, autant le terme de barbarie commence à véritablement faire sens à partir de la Première Guerre mondiale. Ce sont les exactions allemandes en Belgique qui ont donné naissance au concept même de barbarie, à savoir le meurtre de masse, les atrocités à l'encontre de populations civiles hors de tout champ militaire. Et c'est à partir de là, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, que le terme de barbarie va s'enraciner dans la culture, qu'il va s'enraciner dans l'idéologie, qu'il va coloniser les médias, jusqu'à ce que désormais, le terme de barbarie, depuis les années 60, serve à désigner aussi bien les crimes en temps de guerre que les atrocités en temps de paix, les faits divers.
C'est-à-dire qu'à partir de ce terme-là, on a également défini des chefs d'accusation nouveaux.
Oui, et en même temps, parce que l'on parle de barbarie et que derrière le mot barbarie, il y a le mot barbare, toute l'histoire du terme va ressortir. Les différentes acceptions qui étaient là depuis 2000 ans, acception ethnique, acception religieuse, acception morale, et puis acception politique aussi, celui qui vient de l'autre côté de la frontière, l'ensemble de ces termes vont parfois se synthétiser derrière cette appellation de barbarie, et derrière la barbarie, on voudra souvent trouver le barbare qui est l'autre.
Le barbare, c'est l'autre. C'est l'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs, qui a des mœurs différentes, qui a un mode de vie différent, qui a une langue différente, on en reparlera, puisque c'est finalement l'étymologie et le début de tout.
Oui, le barbare, c'est celui dont vous ne comprenez pas la langue, qui fait barbare, barbare en grec. C'est une notion qui va rester présente à travers toute l'histoire. Jusqu'au XXe siècle, on va parfois classer les civilisations, et ça sera le cas jusqu'aux années 30, selon les concepts grecs. Différence de langue, différence de religion, différence de climat également. La pensée grecque fondait la notion de civilisation sur le monde méditerranéen. Nous sommes au centre, nous avons un climat tempéré, les autres aux extrêmes ont trop froid ou trop chaud, et leur cerveau ne s'adapte pas bien, et donc sont trop bêtes, ou en tout cas pas assez équilibrés, pour être accessibles à la pensée intelligible, c'est-à-dire la pensée grecque, le logos. Et bien, ces idées-là sont encore présentes dans les années 20 et dans les années 30. Toute une partie du mouvement colonial s'appuie sur des conceptions qu'on appelle la théorie des climats. Classer ce qu'on appelle désormais les races dans les années 30, selon les différents climats terrestres, les unes étant adaptées à la pensée intelligible, les autres étant des barbares.
Quelles sont les sources dont on dispose, Bruno Dumézil, concernant ces peuples contemporains des empires gréco-romains ?
Alors, on n'a pas de source barbare, c'est-à-dire que personne, ou pratiquement personne, ne s'est jamais défini comme barbare. Donc on n'a que le regard de la civilisation, des Grecs d'abord, des Romains ensuite. On a aussi les sources des barbares eux-mêmes quand ils ne se considèrent plus comme barbares. C'est le cas chez nous pour les Francs, à partir du 7e siècle, vont envisager leur papacé comme étant un passé barbare, mais à partir du moment où ils ont intégré le monde gréco-romain, à partir du moment où ils se convertissent au christianisme, ils ne veulent plus être jugés comme barbares.
D'après vous, Bruno Dumézil, que le barbare à la fois effraie et en même temps fascine. Je parlais du cinéma, un des collaborateurs de cet ouvrage parle des jeux vidéo. Enfin voilà, c'est un univers qui fascine.
Oui, le barbare, il est présent dans les séries télévision, au cinéma, dans les jeux vidéo, comme un personnage généralement positif. Évidemment, c'est la grosse brute, mais plutôt la grosse brute gentille. Celle qui va sauver, en fin de compte, la civilisation, soit décadente, soit menacée par la machine, soit menacée par la religion. Effectivement, le barbare est positif, mais il est positif finalement depuis les origines. Dès l'époque grecque et surtout à l'époque romaine, autant les politiciens vont dire du mal des barbares pour définir où est la frontière, autant les moralistes vont réfléchir à l'image du barbare comme ce que l'on n'est plus, mais de ce que l'on devrait revenir. Les barbares sont les êtres purs, ceux qui sont plus proches de la nature, ceux qui ignorent l'argent, ceux qui ignorent le vin, ceux qui ne fréquentent pas trop les femmes ou les hommes, selon les civilisations. L'image de la beauté, de la pureté, de la grandeur perdue.
Ils ne sont encore pas altérés par la décadence qui menace toute la civilisation, finalement.
Évidemment, tout dépend des périodes. On pense généralement à la décadence, pas quand on la vit, mais quand on en a peur. L'historien qui va le plus réfléchir aux barbares, c'est Tacite. Fin du 1er siècle de notre ère. Pour nous, l'apogée de l'Empire romain, sur le plan économique, culturel, politique. Et pourtant, Tacite a de très longues pages sur la crainte de la décadence et sur l'image du barbare comme étant celui qui peut lutter contre la décadence. Les barbares étant purs, il faut redevenir des barbares ou faire venir des barbares chez nous. Et il y aura à travers toute l'histoire cette idée que ces barbares vont apporter, eh bien avec eux, leurs vertus, leurs qualités militaires sûrement, mais aussi leurs qualités morales. Et périodiquement, le barbare va permettre de régénérer la civilisation de référence.
Vous avez parlé de la période antique, de la période contemporaine, où l'image du barbare a ressurgi pour les raisons que vous avez expliquées. Entre les deux, c'est une notion qu'on oublie ?
Curieusement, la période que l'on appelle, nous, les temps barbares, est une période qui parle pratiquement jamais de barbarie. Entre le 5e et le 9e siècle de notre ère, à l'époque où les royaumes occidentaux, le royaume des Francs, le royaume des Burgondes, le royaume des Visigoths, sont en train de se structurer et de fonder les embryons de ce qui sera en partie les États de l'époque médiévale et moderne, eh bien on ne parle pas beaucoup de barbarie. Les gens se définissent autrement que comme étant des barbares ou que comme étant des Romains. Ils sont Francs, ils sont Romains, ils sont Visigoths, ils sont Angles, ils sont Saxons. Ce terme-là n'apparaît pas, sauf à partir du moment où le christianisme sert à unifier la civilisation occidentale, autour de l'an 600, autour du pontificat de Grégoire le Grand. Et désormais, le barbare, c'est l'infidèle. Celui qui n'a pas encore reçu le message chrétien, et donc qui vit, ma foi, toujours très loin. Donc très loin au nord, ça sera bientôt les Vikings, à partir du 8e siècle. Très loin au sud, ça sera les Sarrasins, qu'on connaît encore mal à partir du 8e siècle, mais quand même, le terme de barbare est employé. Ou ce sera très très loin vers l'est, les peuples de la steppe, dont les Mongols seront alors la plus grande incarnation. Mais le barbare au Moyen-Âge est un personnage de l'altérité géographique. On en a peur, bien entendu, mais il est suffisamment loin pour ne pas être menaçant.
Quelle différence y a-t-il entre un barbare et un sauvage ?
Le sauvage, c'est une conception qui apparaît à l'époque moderne. Curieusement, lorsque la discussion sur les sauvages va apparaître, 17e, 18e siècle, elle va en grande partie oblitérer la discussion sur la barbarie. Le sauvage, ça naît d'une pensée qui est à mi-chemin entre la pensée jésuite sur la mission et la pensée des philosophes des Lumières sur les états primitifs de l'homme. Les deux visent à établir un classement de civilisation qui place certains états primitifs ou jugés primitifs de l'homme dans ce qu'on appelle la sauvagerie. mais ce n'est plus véritablement un personnage menaçant, alors que le barbare, lui, est menaçant.
Bruno Dumézil, c'est au grec que l'on doit le mot barbare et le concept de barbare. Ça démarre quasiment avec une onomatopée.
Oui, le premier à parler véritablement de barbare est Homère. Donc on est vers le 8e siècle avant notre ère. Il ne parle pas de barbare, il parle de barbarophone, c'est-à-dire ceux qui parlent en faisant barbare. Chez lui, c'est pas du tout négatif. C'est simplement les gens qui ne parlent pas grec ou qui parlent un très mauvais grec. Pour que l'on passe de l'onomatopée au concept, il faut attendre une opposition politique. 5e siècle avant notre ère, les différentes cités grecques, ou du moins une partie des cités grecques, se découvrent un grand ennemi dans la Perse achéménide. Pour unifier ces 100 à 200 petites cités qui jusque-là vivent dans un état de guerre permanent, on a besoin d'idéologie. On a besoin de créer une unité du monde grec. Cette unité, elle, n'existe ni en termes politiques, ni en termes religieux, ni en termes moraux, ni en termes sociétaux. On va la trouver sur le plan linguistique, en se disant que, ma foi, la Grèce existe parce que tout le monde parle grec, les ennemis, ce sont les barbares, ceux qui parlent autre chose que le grec. Et soudainement, le barbare naît comme l'autre absolu, un autre militaire avant tout, parce qu'il est un autre linguistique.
Mais est-ce que ça s'étend à tout ce qui ne parle pas grec, tout ce qui ne ressemble pas à la civilisation grecque, par extension ?
Alors, les guerres médiques ne sont pas un épiphénomène, mais enfin, c'est quand même relativement bref. Dès que cet épisode violent, significatif, mais bref, d'histoire militaire s'arrête, les Grecs se retrouvent avec un concept qu'ils vont avoir du mal à utiliser vis-à-vis d'un monde environnant gigantesque et dont il faut bien avouer que la culture est au moins équivalente à la leur et parfois supérieure. Pensons quand même que la Perse achéménide, traitée de barbare, fait doucement
sourire aujourd'hui.
Sourire, oui. C'est quand même un empire qui s'étend sur plus de 5000 kilomètres de largeur et qui est capable d'administrer des populations extrêmement nombreuses. Alors, les Grecs vont être obligés de créer toute une série de distinctions. Alors, d'abord, passer du linguistique au culturel, c'est-à-dire que le barbare, c'est celui qui n'a pas la culture grecque, c'est-à-dire celui qui ne sait pas se déshabiller quand il le faut, c'est-à-dire pour l'entraînement sportif, pour afficher son corps, qui n'a pas les mêmes mœurs militaires, qui ne sait pas pratiquer l'éphébie, qui ne sait pas se battre comme un grec, celui qui ne sait pas lire le grec non plus, et celui, globalement, qui n'adhère pas à cette grande culture méditerranéenne où on se baigne régulièrement et où on mange assaisonné à l'huile d'olive. Donc on va avoir une conception globalement culturelle. Les barbares, c'est pas nous, c'est ceux qui mangent du beurre et qui ne lisent pas. Nous, nous sommes les civilisés. Entre les deux vont apparaître les myxobarbaroi, les semi-barbares, des gens qui ont pour partie la culture grecque, pour partie la culture des gens de l'extérieur.
Mais pourquoi ce besoin de déterminer des barbares ? Ça répond à quel type de besoin ?
Alors, ça dépend des auteurs. Chaque auteur a ses besoins personnels. Pour les gens qui s'intéressent à la politique, il s'agit bien entendu de savoir avec qui on va pouvoir faire des alliances. Avec des semi-barbares, c'est possible. Avec des barbares complets, c'est quasiment inacceptable. Donc, on va définir un certain nombre de peuples qui sont presque comme nous et avec qui on pourra faire la paix. Il faut bien voir que, en termes d'histoire universelle, c'est le même choix que fera la Chine. La Chine des Han va définir toute une série de barbares, des barbares qui mangent des aliments cuits, avec qui on pourra faire des alliances, des barbares avec qui on ne peut pas faire d'alliance parce qu'ils mangent des aliments crus. Donc c'est un peu la même idée que le barbare cuit et le barbare cru des Chinois. Le grec a son semi-barbare avec qui on peut faire la paix. Et puis il faut bien voir aussi qu'il y a des ethnographes. Les Grecs sont les pères de l'ethnographie antique. Pensons à Hérodote, considéré souvent comme le père de l'histoire ou de la géographie, mais c'est avant tout une conception ethnographique du monde. Donc une observation sans toujours de jugement de valeur, mais avec un besoin de classer les populations entre ceux qui ne ressemblent pas du tout, et ceux qui sont entre les deux. Un jugement qui n'est pas tout à fait faux, parce que autant la grande histoire de la Grèce classique est courte, 5e siècle de notre ère, autant la Grèce hellénistique, c'est-à-dire la Grèce après la Grèce, c'est une longue histoire. Finalement, Rome est le dernier des royaumes hellénistiques, d'une certaine façon. Et il y aura besoin, pour ces gens qui vivent dans les royaumes hellénistiques, nés de la destruction de l'empire d'Alexandre le Grand, le besoin de penser leur société et de montrer que les populations dans lesquelles ils vivent ne sont pas totalement barbares.
Bruno Dumézil, dans quelle mesure ces barbares, tels que les Grecs les définissent, représentent-ils une réelle menace vis-à-vis de la civilisation grecque ?
Alors, une menace, tout dépend du point de vue. Sur les plans militaires, il faut bien voir que certaines populations sont effectivement agressives. C'est le cas peut-être des Scythes au nord du Danube. D'autres populations sont parfaitement neutres, voire inexistantes. Le barbare de référence pour le grec, c'est le peuple des Amazones, dont pour l'instant on n'a jamais trouvé la moindre trace archéologique, il n'a jamais existé. Le barbare, c'est pas forcément une menace réelle, c'est une image de ce que l'on n'est pas. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les peuples qui vont être hellénisés, c'est-à-dire qui sont en cours de transformation, petit à petit, cette pensée que le barbare, c'est ce que l'on n'est pas et que l'on ne veut pas être, eh bien, cela va pénétrer les élites, à tel point que chez les peuples dits barbares, les élites hellénisées vont désormais se méfier des barbares et vouloir rejeter tous les signes de la barbarie. Le cas le plus connu, c'est le peuple des Judéens, la population de Jérusalem au IIe siècle de notre ère, qui se pense pour partie comme le peuple juif et pour partie comme une cité hellénistique et grecque pratiquement ordinaire. Et on a cette tension permanente sur les signes de la barbarie que l'on va pouvoir ou ne pas pouvoir continuer à maintenir. C'est le cas de la circoncision. Grand débat au IIe siècle à Jérusalem sur... Est-ce qu'un juif doit être circoncis ou est-ce que parce qu'il faut apparaître nu en public au moment des bains et au moment des compétitions sportives comme tous les Grecs le font, eh bien on va abandonner cette coutume-là.
Donc ce ne sont pas de réelles menaces, c'est plus un concept qu'autre chose.
C'est plus un concept, c'est plus un élément rhétorique, c'est plus un élément qui permet de penser la civilisation, de décrire le monde, même s'il n'existe pas comme tel. On commence véritablement à représenter les barbares quand il n'y en a plus. À l'époque des guerres médiques, on a très peu de représentations de Perse.
Que les guerres médiques ?
Donc l'affrontement entre la Grèce et l'Empire perse, le grand moment où Athènes va être prise par les Perses, les histoires des batailles de Marathon, des Thermopyles, là pratiquement jamais on ne représente le Perse. On représente les Amazones, les géants, les centaures, des images de la barbarie. Mais à partir du moment où les barbares vont véritablement être vaincus et que des états puissants, qui sont les états du 4e, 3e siècle de notre ère, apparaissent, on va représenter le barbare parce qu'il est loin, il est moins dangereux, mais ça permet aux rois, aux grands rois hellénistiques, notamment ceux de Pergame, mais ceux d'Alexandrie également, de se présenter en sauveur de la civilisation. Donc là, on va montrer le barbare alors qu'il n'y est plus vraiment. C'est l'époque où, pour la première fois, on représente les Gaulois, et on va voir les grandes statues des Galates que l'on a retrouvées sur le Capitole.
Voilà, j'allais vous demander de quelle représentation vous parlez. Ce sont essentiellement des sculptures, des mosaïques.
Sculptures, mosaïques, sur les monnaies aussi, avec une représentation du barbare toujours illustrée par des cheveux dénoués, sales, longs. À l'opposé du grec qui a un soin extrême de sa pilosité, le barbare est un être négligé. Et en même temps, même si le barbare est laid, s'il est représenté avec des muscles surdimensionnés qui montrent qu'il ne participe pas à cette civilisation de l'équilibre qu'est la Grèce, même s'il a toujours des armes, bien le barbare est toujours représenté comme courageux. On le voit agonisant, mais essayant encore de brandir son épée dans l'agonie. On le montre toujours ayant des qualités particulières. Parce que pour les triomphateurs grecs, le triomphe n'aurait aucune valeur si les barbares n'étaient pas courageux. Donc le barbare doit nécessairement être valeureux pour que la victoire du civilisé apparaisse d'autant plus grandiose.
Qu'il y ait un mérite à l'avoir vaincu.
Il faut qu'il y ait un mérite, et en même temps, dans ces cas-là, ça laisse la place à tous les moralistes, qui vont dire que du côté des barbares, il y a des qualités. Et on va voir chez les philosophes grecs de très nombreuses réflexions sur les sagesses barbares. Sagesse notamment des gymnosophistes, c'est-à-dire des sages de l'Inde, que l'on va avoir rencontré à l'époque des conquêtes d'Alexandre le Grand. Réflexion également sur les Égyptiens, la plus ancienne des civilisations connues par les Grecs. On va se dire, bon, il y a des choses inacceptables chez eux. Ils ne sont pas comme les Grecs. Regardez la place que les femmes occupent dans leur société. Beaucoup trop de place. Chez les Grecs, les femmes n'ont pas du tout de place. Mais en même temps, ils savent des choses sur les dieux. Ils ont des qualités morales. Et donc, le barbare, quoique autre, sera acceptable.
Vous avez parlé de barbares grecs ?
Alors, de barbares égyptiens, non, de barbares grecs, c'est possible dans quelques cas. Parce que quand les cités grecques s'affrontent, on se lance à la tête toutes les invectives possibles. Et un certain nombre d'éléments de ce que nous appelons la Grèce aujourd'hui est traité de barbare par les grandes cités. C'est le cas des Macédoniens. Alexandre le Grand et son père Philippe sont parfois traités de barbares.
Par les Grecs eux-mêmes ?
Par certains Grecs. Rien ne prouve que les Macédoniens ne considèrent pas aussi certains Grecs comme étant barbares.
Donc on voit qu'il s'agit vraiment d'une acception très mouvante qui peut s'appliquer un peu à n'importe qui selon le point de vue d'où on se place.
Oui, bien sûr. C'est pour ça que le mot se retrouve aussi souvent. C'est très pratique d'appeler l'autre barbare. Parce que ça appelle toute une série d'images mentales, qui sont des images physiques aussi. Il faut bien penser que dans les grandes cités de l'Antiquité, vous avez des sculptures de barbares partout. Quand vous parlez de barbares, vous avez l'image mentale de ce que ça peut être. Un gros type velu, dangereux, avec une épée. Et en même temps, dans la mesure où le concept est très plastique, très modelable, que l'on en fait ce que l'on en veut, eh bien, on peut tantôt traiter les gens de barbares, tantôt considérer qu'ils ne le sont pas. Le plus bel exemple, c'est Rome. Rome est considérée comme une cité barbare par les Grecs jusqu'au 4e, 3e siècle avant notre ère. Et soudainement, parce que Rome a triomphé, bien les Grecs se mettent à dire que les Romains, c'est des presque Grecs. Et puis c'est des Grecs, on les accueille aux Jeux Olympiques. Ils ont la bonne idée de se déshabiller au bon moment, montrer qu'ils appartiennent à cette civilisation de la nudité. Et puis soudainement, ils apparaissent comme les descendants d'Héraclès et donc comme des Grecs.
Bruno Dumézil, est-ce qu'il y a un glissement, une évolution de la manière dont on considère le barbare avec l'Empire romain par rapport à la civilisation grecque, disons? Est-ce que les choses évoluent là?
Alors les Romains sont toujours considérés comme les élèves des Grecs en matière de philosophie, de géographie et d'ethnographie. Dans beaucoup de textes, on verra les conceptions grecques, à savoir que le barbare est défini par la langue, le climat, la culture, etc. Vous trouvez ça chez Cicéron, vous trouvez ça chez les grands géographes grecs et romains. Et pourtant, quand on regarde la conception réelle du monde romain de la barbarie, c'est une conception totalement différente. La différence entre la civilisation et la barbarie à Rome, c'est une frontière politique. Il y a une notion géographique et juridique, à savoir qu'à l'intérieur de l'Empire romain, vous êtes citoyen romain, à l'extérieur, vous êtes barbare. Il y a vraiment une ligne, et toute l'histoire de Rome, c'est l'histoire de cette variation de ligne. On essaie de repousser la frontière, ou pour être exact, on se défend contre les barbares de l'extérieur, dans la mesure où Rome aura toujours juré ne jamais avoir mené une guerre offensive. Mais en même temps, si l'on regarde en termes pratiques, la barbarie, c'est un concept juridique à Rome, ce que ce n'était pas du tout en Grèce.
Et qui concerne n'importe quelle population au-delà de l'Empire, quoi.
Au-delà des frontières du monde romain, on est barbare. Mais on peut être intégré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la distinction est juridique et qu'on ne parle pas de climat différent, de population biologiquement différente, si vous êtes à cet endroit, vous êtes romain. Si vous êtes à l'autre, vous êtes barbare. Si la frontière change, vous êtes appelé à être romanisé. C'est toute la grande rhétorique de Jules César. La Gaule est peuplée de populations qui ont telle et telle caractéristique ethnographique parce qu'il a bien lu les géographes grecs. Et en même temps, à partir du moment où moi, Romain, j'ai envahi la Gaule et j'ai repoussé la frontière du monde romain sur les frontières de la Germanie, c'est-à-dire sur le Rhin, eh bien, toute la Gaule est peuplée de populations appelées à terme à devenir romaines.
Mais est-ce que ça veut dire assimilation ?
Ça veut dire assimilation, ça veut dire acculturation, ça veut dire aussi transformation, surtout des élites. Les élites locales reçoivent très vite la citoyenneté romaine. Parfois même avant la conquête, ce qu'on oublie souvent de dire. Par exemple, les grands chefs de la Germanie indépendante, des gens comme Arminius, les gens qui ont écrasé les légions romaines à Teutobourg, sont composés de citoyens romains. À partir du moment où vous êtes un notable de la frontière et que l'Empire romain considère qu'un jour ou l'autre vous serez intégré, on donne très généreusement la citoyenneté romaine. L'Empire romain, c'est donc une nébuleuse juridique. Vous avez le centre, où on est parfaitement romain, et puis tout autour, même au-delà de la frontière, un certain nombre de petits îlots de citoyenneté romaine qui attendent une conquête qui viendra peut-être un jour ou l'autre.
Il y a une notion de civilisation derrière ?
Alors la civilisation, elle vient dans un second temps. Après la conquête, Rome reste généralement très prudente. Il n'y a pas d'écrasement, il n'y a pas d'asservissement général des populations. Bien entendu, la conquête est souvent très dure, mais après il y a des offres qui sont faites. Les élites peuvent rejoindre le monde romain. Même si elles se sont révoltées, c'est pas grave, à partir du moment où elles acceptent d'être loyales et de payer l'impôt, on leur fait des offres. Et les élites le comprennent. Si on regarde les provinces occidentales, très rapidement, dans toutes les provinces conquises par l'Empire romain, on verra apparaître un forum, un temple, des thermes, le culte impérial, et petit à petit, tous les éléments de la citoyenneté romaine, diffusés par les élites, à tel point que la langue latine devient la langue de l'élite. jusqu'à oblitérer les langues locales. Il faut bien le voir que le gaulois a disparu dès le 2e, 3e siècle de notre ère, sous nos latitudes, pas parce que Rome a imposé la langue latine, mais simplement parce que les élites gauloises ont fait le choix de la civilisation romaine.
Cette tentative d'extension de la civilisation romaine qui va étouffer leur propre culture, elle est admise ?
Alors les historiens, pour décrire ce même phénomène, aiment bien le terme de romanisation, c'est-à-dire de transformation du paysage mental, humain, physique, en monde romain.
Il n'y a pas de résistance ?
Si, mais pas toujours et pas tout le temps. Et le problème, c'est que quand on a des résistances, les seules sources que l'on peut avoir sont des sources latines. Les plus belles résistances, c'est la résistance des Calédoniens, c'est-à-dire la résistance des Écossais actuels. Et on a de très beaux textes du 1er siècle nous disant que les chefs écossais faisaient de grandes déclarations à leur peuple, en disant le monde romain, c'est l'endroit où les légions romaines transforment le monde en désert. Donc l'idée d'une romanisation qui est en fait une destruction de toutes les civilisations indigènes. Mais il faut bien voir que ces déclarations, on les a dans des textes d'historiens romains et que jamais aucun Écossais n'a dit ça. Ce sont les historiens romains qui fantasment la résistance que peuvent avoir les peuples indigènes vis-à-vis de la romanisation. Alors cette résistance, elle a eu lieu, résistance politique. Résistance culturelle, il n'y en a pas beaucoup. Il faut bien avouer, Rome, c'est un rouleau compresseur culturel. La civilisation de l'écrit, c'est quand même puissant l'écrit. L'architecture, vous obtenez également la culture. Et puis surtout, vos enfants ont l'espoir de devenir citoyens romains et pourquoi pas sénateurs romains. L'empereur Claude a donné aux Gaulois le droit d'entrer au Sénat. Très peu de temps après la conquête, alors que vous étiez un chef gaulois vaincu, vous pouvez devenir un des grands administrateurs, un grand maître du monde romain.
Donc c'est l'efficacité de cette romanisation qui est à l'œuvre.
C'est l'efficacité, c'est une forme d'intelligence ou de générosité, ça dépend du point de vue. C'est quelque chose qui en tout cas fascine les Grecs. On a des auteurs grecs qui disent, regardez, Sparte, Athènes se sont écrasées militairement elles-mêmes et n'ont pas réussi à survivre parce qu'elles n'ont pas assez donné la citoyenneté. Pour devenir citoyen athénien, vous devez faire vraiment beaucoup de cadeaux à la ville. Alors que Rome a donné à des milliers et des milliers de personnes tous les ans la citoyenneté et c'est pour ça que Rome triomphe.
Bruno Dumézil, longtemps Rome triomphe, mais Rome s'écroule aussi au 5e siècle. Et on dit que c'est sous la poussée et l'invasion des barbares que l'Empire romain s'effondre. Quelle est la part de vérité ?
Alors d'abord, est-ce que Rome s'effondre au 5e siècle ? Si vous allez du côté de la Grèce actuelle, l'Empire romain il s'est effondré en 1453. Byzance, c'est l'Empire romain perpétué. Donc la date
d'Orient.
D'Orient, oui, mais à partir du moment où il n'y a plus qu'un seul empereur et que les insignes impériaux d'Occident ont été envoyés par un chef dit barbare au Odoacre en Orient en disant l'Empire romain est réunifié, c'est notre point de vue d'occidentaux qui dit que Rome n'existe plus. En vrai dire, on pourrait aussi considérer que l'Empire romain est toujours là. Mais bon, il faut bien
pour
avouer.
Pour la partie occidentale, donc.
Pour la partie occidentale, il faut bien avouer que les choses vont de plus en plus mal à partir du 3e siècle de notre ère. Pour être exact, 3e siècle de notre ère, il y a des grandes invasions. Violente, bien connue, bien attestée par l'archéologie, par les textes. L'Empire est devenu tellement grand que la défense devient difficile. Parce qu'il y a des coûts incompressibles, la défense vis-à-vis des peuples orientaux est considérable. Les Perses achéménides ont laissé la place à d'autres pouvoirs qu'on appelle les Parthes et après qu'on appellera les Sassanides. Là, ça coûte vraiment très cher de garder l'Orient. L'Occident, ça coûte aussi cher de garder. Donc il y a une crise budgétaire, une crise démographique également, qui fait qu'au 3e siècle, l'Empire souffre. Mais au 4e siècle, il se relève. L'empire du 4e siècle, l'empire de Constantin, l'empire chrétien, est un empire qui contient les barbares. Contrairement à ce qu'on a souvent dit, en associant le christianisme et un affaiblissement moral de l'empire, il faut bien avouer qu'au 4e siècle, les empereurs chrétiens, parfois avec une rare violence, réussissent à contenir les barbares et à rétablir globalement la frontière. Et puis au 5e siècle, que se passe-t-il ? Bien là, vous avez autant d'historiens que d'explications, mais il faut bien avouer que l'empire romain se délite. Un délitement qui est avant tout politique, il y a d'énormes problèmes de succession. Un délitement militaire également, c'est vrai qu'il y a des grandes défaites, mais après tout, l'histoire de l'Empire romain, c'est aussi une série de défaites. Et puis un délitement budgétaire. L'Empire perd des régions capitales, notamment l'Afrique, qui assurait le ravitaillement en blé et l'essentiel de la fourniture en impôts. Et à partir de la perte de l'Empire africain, c'est-à-dire à partir de la mort de Saint-Augustin dans les années 430, l'Empire n'a plus beaucoup d'argent, plus beaucoup d'idées, plus beaucoup de personnel politique non plus. Les 50 dernières années sont un crépuscule avec des frontières qui se replient et puis des barbares qui apparaissent partout, non comme des conquérants, mais comme les nouveaux administrateurs des provinces.
Ça se fait dans la violence ?
Ça se fait parfois dans la violence. La conquête de l'Afrique par les Vandales est très violente. La disparition de la Britannia, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, est aussi très violente. À tel point que la Britannia perd la connaissance de l'usage de l'écrit. C'est un cas unique dans l'histoire occidentale, un espace qui retombe dans la préhistoire.
Sous le coup de qui ?
C'est le problème. À partir du moment où vous n'avez plus de texte, soit vous pouvez considérer que c'est les envahisseurs, et sans doute il y a eu des Scots, c'est-à-dire des Irlandais, des Écossais, mais aussi des Angles et des Saxons du continent qui font du dégât. Mais vous avez aussi des notables qui sont retombés dans la plus totale indépendance et qui s'entre-déchirent. Et ce qu'on appelle les Gallois constituent des petites chefferies qui se battent les unes les autres, mais ce sont des Romains.
Donc les poussées barbares sont réelles et l'Empire romain s'effrite, il se délite.
Oui, parce que si vous prenez d'autres régions, par exemple tout le sud de l'ancienne Gaule qu'on appelle l'Aquitaine, là l'empereur romain installe en 418 les Visigoths comme administrateurs des provinces. Et il faut remarquer qu'ils administrent très bien les provinces. Alors évidemment, c'est un pouvoir que nous considérons comme barbare, mais en même temps, ils ont une capitale, Toulouse, ils produisent du droit romain, ils administrent, ils prélèvent l'impôt, ils assurent la justice sociale. Globalement, on ne voit pas d'effondrement. C'est une civilisation romaine qui se perpétue. Il se trouve simplement que quand, en 476, il n'y a plus d'empereur à Rome, les rois visigoths qui étaient à Toulouse, au lieu d'être des administrateurs pour le compte de Rome, deviennent des rois indépendants.
Mais sur le modèle romain ?
Ah, sur un modèle totalement romain, oui. Ils sont tellement romains qu'ils sont hérétiques. Dans la mesure où les Visigoths se sont convertis à la religion de l'Empire romain au IVe siècle, mais à un moment où l'empereur romain Valens adhérait à l'hérésie arienne, c'est-à-dire considérait que le fils était inférieur au père dans la chrétienté. Et parce qu'ils ont adhéré à la religion impériale, les Visigoths sont restés hérétiques. Mais on constate quelque chose d'étonnant, c'est que la législation visigothique est plus romaine, plus synthétique et plus efficace que la législation de l'Empire lui-même. On fait une sorte de super droit romain, à tel point que le droit romain qui est connu jusqu'au XIIe siècle en Occident et qu'on appelle le code théodosien, puis en fait c'est la révision du code théodosien par les Visigoths. Le droit romain est un droit visigothique.
Bruno Dumézil, les Visigoths dont vous parliez précédemment sont donc des barbares installés en Aquitaine par les Romains. Et ces barbares appliquent l'administration, gèrent le territoire dont ils ont la responsabilité sur le mode romain. Alors ça peut paraître quand même assez surprenant. On est loin des invasions sanguinaires qu'on a parfois en tête dès qu'on parle des barbares et de leur implantation sur le territoire de la Gaule.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours Astérix et les Goths en tête en pensant à des gens à casque à cornes ou à casque à pointe qui dévastent le territoire. Les Visigoths sont un des peuples les plus anciennement romanisés de la frontière. Ils sont originaires de la région danubienne, ils ont vécu pendant des siècles à proximité de l'Empire. Les chefs des Visigoths maîtrisent l'écrit, ils ont servi de généraux dans les armées romaines comme mercenaires, puis comme régents. Et on les voit, à partir du moment où ils se constituent en royaume territorial, administrer remarquablement bien, autant qu'ils le peuvent, bien entendu, l'Empire, notamment en ayant une administration de type étatique. Les Visigoths nomment dans toutes les cités des comtes qui sont révocables et salariés par l'État. Les comtes, ce sont des fonctionnaires. Ce qui va donner l'unité de base du Moyen-Âge et de l'époque moderne, le comté, c'est la division administrative donnée à un fonctionnaire visigoth.
Mais comment se fait-il qu'il maîtrise aussi bien la gestion telle que les Romains l'appliquaient ?
Vous savez, quand on est là depuis deux siècles, dans l'Empire romain ou à l'extrême proximité, que l'on a servi dans l'état-major, que votre ancêtre s'est battu contre Attila, c'est véritablement un regard xénophobe de dire que ce sont des barbares. Imaginons qu'aujourd'hui, on traite un descendant d'immigrés d'Italiens d'étrangers. C'est la même chose avec nos Visigoths. Si on veut absolument les traiter de Visigoths, on peut les traiter de Visigoths et les considérer comme des barbares. En même temps, ce sont des gens qui sont des élites établies depuis suffisamment longtemps pour connaître parfaitement tous les rois du monde
romain. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont été eux aussi romanisés, en fait.
Ah, ils ont été profondément romanisés, mais le problème, c'est de savoir finalement qui n'est pas romanisé. Tous ceux sur qui on a des textes, même les terribles vandales d'Afrique, sont capables d'affaires de l'administration publique. Parce que quand vous vivez à frontière du monde romain, vous êtes très rapidement pénétré par toutes les valeurs du monde romain, et notamment fasciné par l'écrit. Les Vandales, eux aussi, même s'ils ont conquis violemment l'Afrique, Dès qu'ils s'emparent de Carthage dans les années 430-440, ils en font une capitale. Immédiatement, ils administrent l'empire vandale d'Afrique comme une province romaine. Et ils se comportent tellement en romain et en romain chrétien qu'ils commencent des persécutions religieuses. Ils reprennent le schéma de l'empire tardif en promulguant des grands édits royaux qui imitent les édits impériaux pour persécuter toutes les sectes religieuses ou tous les groupes religieux qu'ils ne supportent pas. Et il se trouve que les catholiques sont les premiers.
D'où vient l'idée que les barbares sont des peuples venant de la zone est, des steppes froides que vous décriviez précédemment ?
Alors, il y a des peuples d'un peu partout. La plupart des barbares qui s'implantent sur le sol des anciennes provinces sont des gens qui vivent dans la frontière.
Les anciennes provinces de l'Empire romain d'Occident.
D'Occident et même en partie d'Orient, parce qu'il y aura beaucoup de barbares aussi dans l'Empire d'Orient, on l'oublie, mais une partie de l'armée byzantine est composée de barbares. Ce sont des gens qui ont toujours vécu soit dans les frontières danubiennes, soit dans les frontières du Rhin. Les vrais, entre guillemets, barbares, les gens qui ne sont pas du tout romanisés, sont des gens qui vont tous être repoussés. C'est le cas des Huns, qui, malgré quelques victoires au milieu du 5e siècle, ne réussiront jamais à s'emparer des provinces romaines. Ceux qui viennent, ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, à tel point que les Francs ont déjà fourni un empereur romain au 4e siècle, un certain Maxence, qui est oublié par beaucoup, mais qui était quand même un général franc devenu empereur romain. Et puis, quand on réfléchit bien, la frontière, c'est une zone, c'est plus une masse territoriale qu'une ligne sur le territoire. Ces gens-là, ils fournissent à la fois les derniers généraux de l'Empire romain et les grands chefs barbares. Alors, c'est vrai que Constantin est considéré comme un romain, mais il est né à quelques kilomètres de la frontière. Son cousin, qui est né peut-être à 10 kilomètres, deviendra peut-être un chef goth. C'est les mêmes groupes militaires qui vont fournir les élites romaines tardives et les premières élites barbares.
Alors, ces histoires de grandes invasions barbares,
tout dépend de votre point de vue. Si vous êtes un habitant de la Gaule du Nord qui a été massacré par une armée en maraude, vous ne vous posez pas trop de la question de savoir si c'est une armée d'un un usurpateur romain ou d'un barbare venu pour piller. Les dévastations que l'on voit dans certains sites d'habitat, dans les villes, la transformation des villes aussi, le cloisonnement de l'espace, les murailles, la réduction de l'espace urbain, la baisse démographique. Est-ce que la faute en revient à la politique fiscale de l'Empire ? Est-ce que ça en vient aux troubles militaires ? Ou est-ce que ça en vient aux barbares véritables qui attaquent ? Quand vous êtes un contemporain, vous ne vous en rendez pas compte. Mieux vaut accuser les barbares. C'est pour ça qu'on a autant de sources contre les barbares. Parce que politiquement, c'est moins risqué de dire que c'est la faute des barbares que c'est de la faute de l'Empire romain. Ensuite, c'est vrai qu'à certains endroits, il y a vraiment des troubles militaires. Mais pas partout. Vous avez aussi des provinces qui sont relativement épargnées. Pensons par exemple aux provinces orientales. Pensons également à une partie de la Gaule centrale, qui ne connaîtra jamais de véritables troubles militaires. Vous avez une transformation parfois sans qu'il y ait eu la moindre invasion. Et s'il y a eu invasion, ce n'est pas forcément une invasion de peuples étrangers.
Quand il n'y a pas eu invasion, ça s'est passé comment ?
Imaginez par exemple la situation de la Grande-Bretagne. Vous avez les élites locales, qui s'appelaient romaines au 2e, 3e siècle de notre ère. Quand l'Empire romain disparaît, elles se font appeler galloises. Elles changent d'identité, elles changent de langue, elles se réorganisent en chefferie. Et elles se mettent à dévaster le territoire. Évidemment, vous allez avoir des textes qui vous disent que les barbares ont cassé. En même temps, ça peut être les Romains qui ont cassé. Même chose quand vous ouvrez une tombe mérovingienne, c'est-à-dire une tombe des Francs aux alentours de l'an 500. Les gens sont là en costume militaire. Ça ne ressemble pas du tout à des élites romaines comme on les connaissait avant. Ça ne ressemble pas à un sénateur romain. Mais plus personne ne porte la toge. Les descendants des sénateurs romains, voilà bien longtemps qu'ils portent la lance, qu'ils portent la cuirasse et que tout le monde ressemble à un barbare. Donc finalement, est-ce qu'il y a eu invasion ou est-ce qu'il n'y a pas eu invasion ? Ce n'est pas la véritable question. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une transformation relativement rapide de la société qui commence vers le 3e siècle de notre ère avec bouleversement géopolitique et puis les gens qui sont obligés de se positionner. À tel point que, si on prend nos régions, tout le monde était romain au 3e siècle. Tout le monde sera franc au 7e siècle. Ça ne veut pas dire que les Romains ont été massacrés par les Francs. Tout simplement, les gens ont changé d'identité, tout comme quelques siècles avant, les Gaulois avaient changé d'identité pour devenir des Romains.
Vous voulez dire que ce sont parfois les mêmes ?
C'est parfois les mêmes. Est-ce que c'est souvent les mêmes ? C'est parfois dans la nuance entre ce parfois et ce souvent qu'il faut chercher la vérité.
on a vu, Bruno Dumézil, qu'il y a une sorte d'uniformisation de la vie de la cité, de la culture, à cause de, ou grâce, par les Romains. Est-ce qu'il y a malgré tout des particularités liées à ces différents peuples barbares? Est-ce qu'ils ont des spécificités qui les différencient les uns des autres?
Peut-être. Là encore, tout est question de perception. Ils ont des noms. C'est vrai qu'on parle de Francs, de Burgondes dans la vallée du Rhône, de Visigoths au sud. Mais pendant longtemps, surtout au XIXe siècle, les archéologues et les historiens ont voulu trouver des spécificités fortes. Donc quand on ouvrait un cimetière, on voyait des objets, on disait « ça c'est un objet franc, ça c'est un objet burgonde ». Donc selon les cimetières, on arrivait à faire une frontière entre la Burgondie et la Francie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dubitatif. Il y a une culture matérielle relativement partagée par les élites et rien ne prouve qu'une même personne ne soit pas capable de changer d'identité selon les besoins. À tel point que lorsque la Burgondie, par exemple, est envahie par les Francs au VIe siècle, une bonne partie des Burgondes devient Francs sans que ça pose le moindre problème intellectuel à personne.
Et ça ne pose pas de problème pratique ?
Le problème pratique, ça serait peut-être le problème de la langue, mais on est très mal documenté sur ce qu'étaient les parlers. Il semble qu'une partie des élites ait eu des parlers germaniques, mais comme toute l'administration se fait en latin, et que de toute façon la langue de communication principale c'est un vernaculaire qui est du latin dégradé, ça ne pose pas de problème finalement que vous parliez telle langue ou telle langue. Des problèmes pratiques se posent en fait quand on établit du droit. Et c'est bien pour ça qu'on établit du droit. On parle des lois barbares souvent en disant c'est le comble de la sauvagerie. En fait, les lois barbares sont du droit romain adapté à une nouvelle réalité ethnique. Donc c'est du droit romain où on va réinjecter l'idée que, attention, telle personne est un franc, telle personne est un burgonde, telle personne est un romain. Et donc l'amende en cas de faute est modulée selon la nationalité. Ce qui veut dire soit que les nationalités existent, soit que le législateur a envie de bien montrer qu'il y a des gens qui ne sont pas exactement pareils.
Et en termes de mœurs ?
En termes de mœurs, on a beaucoup spéculé, c'est surtout Augustin Thierry chez nous, le père de l'histoire mérovingienne, qui considérait que les gallo-romains étaient les modèles de la dignité, alors que les francs étaient des envahisseurs. Eh bien, on peut beaucoup discuter en termes de mœurs, on ne voit pas de comportement différent chez ceux que nous appellerons les barbares des gallo-romains.
Mais on a quoi comme source ?
Alors, on a des grands chroniqueurs, quand même, il ne faut pas exagérer, on a quand même quelques sources. Au VIe siècle, on a Grégoire de Tours, notamment. Ben, Grégoire de Tours nous dit que les rois mérovingiens sont abominables. Ils ont tous les défauts. Ils ont des crimes politiques, sexuels, ils sont violents, ils sont méchants. Et on en a conclu au XIXe siècle, à l'époque où on n'aimait pas trop les gens qui venaient d'Outre-Rhin, que c'était bien la preuve que les élites franques étaient des sauvages. Mais attention, ce que fait Grégoire de Tours, c'est une histoire chrétienne. Ce qu'il veut montrer, c'est que les puissants commettent des fautes particulièrement lourdes et que, bien entendu, ils sont sanctionnés par des morts horribles. Or, comme Grégoire de Tours connaît la fin, il sait que beaucoup des Romains mérovingiens vont mourir d'horribles façons, ce qui permet de dire que s'ils sont morts ainsi, c'est parce qu'ils ont commis des fautes, et donc Dieu est présent pour les châtier. Ça ne veut pas du tout dire que Grégoire de Tours considère que tous les Francs sont des sauvages. La preuve en est que l'appellation ethnique franc ou l'appellation de barbare est relativement rare chez lui. Ce qui l'intéresse, c'est savoir si un homme est puissant, s'il est faible, s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas. La barbarie, l'ethnicité, tout ça n'est pas véritablement sa passion.
Dumézil, est-ce que la christianisation de l'Empire a un impact sur les peuples barbares et sur la manière dont ils sont considérés par ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des peuples civilisés finalement ?
À partir du 5e siècle et encore plus à partir du 6e siècle, le marqueur de la civilisation c'est le christianisme. Pour les derniers pères de l'Église et notamment pour les papes, Grégoire le Grand, le plus important autour de l'an 600, est barbare celui qui refuse l'adhésion au christianisme alors qu'on lui a proposé. Et donc, on constate qu'un certain nombre de peuples qui avaient occupé les provinces de l'Empire romain d'Occident vont perdre tout qualificatif de barbarie parce que, justement, ils ont accepté le christianisme et, bien entendu, de préférence, le christianisme dans sa version catholique.
Par exemple ?
C'est le cas des Francs. Lorsque Clovis se fait baptiser, une date très incertaine, mais disons peut-être un petit peu après l'an 500, immédiatement, Clovis envoie un cadeau au pape sous la forme d'une sorte de grande couronne votive à suspendre autour de l'autel de Saint-Pierre. Et le pape, à partir de là, reconnaîtra les Francs comme des interlocuteurs. Plus du tout comme des barbares, comme des populations qui occupent légalement un sol en Occident sans que la question de l'invasion ne réapparaisse.
La conséquence, ce sont des relations diplomatiques et le fait de considérer que ces peuples sont désormais légitimes.
Alors ça commence par les conceptions diplomatiques et puis rapidement, parce que les pères de l'Église véhiculent les vieilles conceptions gréco-romaines, tout le fond qui servait à définir la barbarie et l'opposition entre barbarie et civilisation réapparaît, notamment la conception de deux cultures opposées. À partir du moment où vous acceptez le christianisme, eh bien vous acceptez l'intégralité de la civilisation gréco-romaine. Donc on considère que les populations converties, ça sera pour le cas pour les Francs d'abord, mais rapidement pour les Visigoths, pour les Anglo-Saxons, pour les Lombards, toutes ces populations occidentales vont intégrer un monde qui est un monde gréco-romain. Et mentalement, ils l'intègrent. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'à partir du 7e siècle, ces populations se mettent à écrire leur propre histoire, à s'inventer un roman national, dirait-on aujourd'hui, à s'inventer des origines. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les Francs vont dire « nos ancêtres, ce sont les habitants de la ville de Troie, vaincus par le monde grec. Les habitants qui se sont enfuis de Troie ont pour partie fondé la ville de Rome et pour partie ont suivi le prince Francion qui a créé le peuple des Francs. » Et donc, en intégrant le christianisme, on a intégré ce grand fond gréco-romain que l'on peut réutiliser un peu n'importe comment. Et puis d'autres vont dire nous, on est les descendants des Amazones, nous, on est les descendants des habitants de Thulée, parce que tout le monde a lu Hérodote, tout le monde sait que dans le Nord, il y a une Thulée extraordinaire où les peuples sont réputés particulièrement féconds. Et donc, certains vont s'inventer de grandes migrations. La carte des grandes invasions que l'on voit encore aujourd'hui sur les manuels, elle est basée sur ces récits d'histoire des 7e, 9e siècle, quand les peuples barbares ne savent pas d'où ils viennent, mais s'inventent une histoire lointaine.
Et ont été christianisés.
Et la migration, ça a du sens, bien entendu, pour un chrétien. Ce qui est étonnant, c'est que tous les peuples barbares, quand ils s'inventent une histoire, traversent une étendue d'eau. Un lac, la mer du Nord, un fleuve. Ben oui, parce que tous ont reçu l'histoire du peuple comme l'histoire du peuple hébreu. Il faut avoir traversé la mer Rouge un jour ou l'autre pour arriver en terre promise. Et donc, on voit par exemple Bède le Vénérable, le dernier père de l'Église, au 8e siècle, expliquer que les Anglo-Saxons viennent du Danemark actuel, ils ont traversé la mer du Nord comme une rencontre vers Dieu, se sont convertis en Angleterre, et là, au moment où ils ont reçu la mission chrétienne, ils ont intégré totalement le monde civilisé.
Donc ça, c'est pour les peuples barbares christianisés, et ceux qui résistent à la christianisation.
Ah ben pour eux, c'est plus difficile. Il faut bien avouer que ceux qui résistent, ils ne sont pas si nombreux. Sur le sol des anciennes provinces de l'Empire romain d'Occident, il n'y a plus du tout de païens à partir du 7e siècle. Mais ceux qui résistent plutôt au nord, donc ce qu'on appellera bientôt les Vikings, ou au sud, essentiellement les peuples islamisés, pour eux, la qualification de barbarie va être totalement réactivée. C'est le cas notamment pour les Vikings, qui vont être appelés barbares à partir du 8e siècle. Et l'idée d'une différence totale, politique, militaire, éventuellement ethnique et climatique, va être intégrée jusqu'au moment où les Vikings, qui sont des gens parfaitement adaptables, se christianisent. Ils vont repousser l'appellation de barbarie vis-à-vis des Lapons. Et on va voir des textes produits en Scandinavie disant nous avons été des barbares dans le passé, mais à partir du moment où on est devenu chrétien, on n'est plus des barbares. Les vrais barbares, ils sont au loin. Et on va voir notamment cette appellation de barbare utilisée pour les populations finno-ougariennes encore païennes, de façon plus extraordinaire pour les Inuits du Groenland et encore mieux pour les Srelingars. Les Srelingars, c'est les habitants de Terre-Neuve. Quand les Vikings arrivent en Amérique, ils utilisent le fond ethnographique gréco-romain christianisé pour appeler les habitants amérindiens d'Amérique des barbares.
On est tous le barbare de quelqu'un, quoi, finalement.
Ah ben, on a toujours besoin d'un barbare, oui.
On voit que ça se déplace, donc, cette notion de barbare vers les peuples païens et les musulmans.
Oui, ça pourrait. Et en même temps, la rencontre avec l'islam est très complexe. D'abord par une ignorance mutuelle assez forte, au moins jusqu'au XIe siècle. Il faut bien avouer que l'Occident ne comprend rien à l'islam. Quand on lit la chanson de Roland, les musulmans sont appelés barbares. Mais on ne sait pas si c'est des hérétiques ou des païens. Donc on va utiliser ce terme de barbarie.
Pourtant, en Orient, on les côtoie.
En Orient, on les côtoie, mais là encore, entre occidentaux et orientaux, la rupture s'est consommée au cours du 7e siècle. Pour des raisons linguistiques, pour des raisons politiques également, pour des raisons épidémiologiques. La peste est en Méditerranée, dès la fin du 6e siècle, les contacts se sont rompus. Et on voit que les occidentaux se mettent parfois à traiter les chrétiens d'Orient de barbares. L'appellation apparaît notamment pour appeler l'empereur byzantin que l'on n'aime pas, eh bien on l'appelle le barbare. Le romain, le symbole même de la civilisation, est appelé
chrétien.
Barbare. Chrétien qui est plus est, maître de l'orthodoxie, qui réunit les grands conseils œcuméniques, mais avec qui on est souvent fâché.
Et donc, a fortiori, les musulmans.
Alors oui, mais pas toujours. Il y a une ambivalence dans le traitement de l'islam par les sources médiévales. pas tellement une ambivalence morale, on est contre, il n'y a pas de doute, mais les traités de barbares posent le problème de l'idolâtrie. Et quand même, à partir du XIIe, XIIIe siècle, la traduction par Pierre le Vénérable du Coran, puis des recherches qui sont menées, la définition de ces gens-là comme barbares pose problème. On va voir, à la fin du Moyen-Âge, cette appellation, sinon disparaître, du moins s'estomper.
RCF, Véronique Alzieu.
Bruno Dumézil, cette notion de barbare, donc, s'estompe au Moyen-Âge ?
À la fin du Moyen-Âge, on parle pratiquement plus de barbare. Quand vous prenez les grands textes qui ont fondé l'histoire de France, les grandes chroniques de France rédigées au temps de Saint-Louis, des gens comme Clovis ne sont pas appelés barbares. On ne pense plus la civilisation en termes d'opposition entre barbares et civilisés. Jusque à la fin du XVe siècle. Et soudain, le barbare explose. On le voit partout. Parce qu'on a retrouvé les manuscrits, on retrouve Tacite, on retrouve les grands auteurs de l'Antiquité, c'est le début de l'humanisme. Et on se met à repenser le monde comme les Romains le pensaient, opposition entre civilisés et barbares. Et puis il faut quand même dire qu'au début du XVIe siècle, il y a aussi un événement qui traumatise l'ensemble de l'Occident, c'est la prise de Rome par les armées de Charles Quint, et notamment par les troupes protestantes allemandes de Charles Quint. Et il va y avoir une association très nette au moment de la contre-réforme entre barbarie et protestantisme. Association également présente dans la pensée luthérienne, puisque Luther va relire également les textes gréco-romains et voir tous ces textes qui disaient que les Germains étaient les gens les plus purs du monde, opposés à une Rome débauchée. Voilà qui sert également sa pensée réformatrice. Et on va avoir dans le milieu protestant l'idée que on est vraiment, quand on est allemand et protestant, l'héritier des Germains purs de l'Antiquité. Et l'opposition entre barbarie et civilisation redevient un élément majeur, du moins de l'idéologie européenne au XVIe siècle.
Et ça rejoint ce que vous disiez pour commencer, à savoir que cette notion ressurgit à un moment où une société, un pays, un pouvoir se sent fragilisé.
Le XVIe siècle et le XVIIe siècle sont des moments où il y a de grandes interrogations dans la société. Grandes interrogations aussi en Occident, c'est le moment de l'affrontement avec les Turcs. On va réactiver également l'idéologie civilisée contre barbare à l'encontre des Turcs au moment des batailles de Lépante et au moment du siège de Vienne. Mais il faut bien voir que c'est un moment aussi où les élites se cherchent. La noblesse du XVIIe, XVIIIe siècle veut revendiquer ses privilèges en ayant des arguments historiques. Mais que va faire la noblesse début XVIIIe siècle ? En France, elle va prétendre être la descendante et la seule descendante des Francs. Par droit de conquête, parce que les Francs étaient des envahisseurs, la noblesse aurait des droits sur l'ensemble de la population. Et inversement, vous allez avoir les défenseurs de la monarchie absolue dire « il n'y a pas eu d'invasion ». Il y a de tout temps un roi qui a un pouvoir absolu, comme l'empereur romain, sur une population qui est totalement unifiée. Et donc on va avoir au XVIIIe siècle aussi, dans des moments de grandes inquiétudes, de troubles politiques, de recherche d'arguments pour légitimer des pouvoirs, les premières sources de l'historiographie des barbares. Essayer de faire l'histoire de l'histoire des barbares. C'est l'époque du comte de Boulainvilliers, de l'abbé Dubos, des Premières Lumières, jusqu'à Montesquieu, qui va écrire son Esprit des Lois en consacrant de très nombreux chapitres sur les barbares, en disant que s'il y a bien une période fondatrice dans l'histoire, c'est la fin de l'Empire romain.
Et pour conclure rapidement, on sait à quel point le XIXe siècle est aussi une période où on a refait l'histoire. Ça concerne aussi les barbares ?
Bien entendu, au XIXe siècle, en Allemagne, où on se cherche une unité, en France aussi, où on se cherche des raisons de combattre les Allemands, mais aussi en Angleterre, en Italie, où on va essayer de se penser comme les résistants barbares, l'histoire nationale va se fonder comme une construction civilisée contre barbares, germains contre romains, lombards contre romains. À chaque fois, on va se trouver ou ne pas se trouver des ancêtres barbares. Et c'est pas un hasard si Clovis, quoique très mal connu par les sources, occupe tant de place dans les manuels scolaires de la Troisième République. Parce qu'il fallait faire un choix, soit Vercingétorix, laïque, gaulois, national, soit Clovis, germanique, envahisseur, chrétien. Deux possibilités pour se positionner par rapport à son propre passé.
Et le choix a été fait ?
Non, le choix n'est toujours pas fait. Regardez les manuels scolaires encore, Vercingétorix et Clovis partagent la même place, tout aussi méritée comme fondateur de la France.
Bon, on a toujours besoin d'un barbare. Hein.
Poilu de préférence, les deux le sont.
Merci beaucoup Bruno Dumézil. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc celui qui a dirigé le livre Les Barbares, paru aux Presses universitaires de France, avec énormément de contributions, parce qu'en fait toute une partie de ce livre est consacrée à un dictionnaire. Je rappelle également que vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à Pierre-Henri Paget qui en a assuré la technique, et à Elisabeth de Monclos qui m'a aidé à la préparer.